bon et cher Wegeler, tu demeures l'ami doux, sincère et loyal de toujours. Lorsque nous nous reverrons, tu me trouveras devenu un fameux gaillard, non seulement comme artiste, mais comme homme, devenu meilleur, plus accompli. Mes compositions me rapportent beaucoup, et je crois pouvoir dire que j'ai presque plus de commandes que je ne peux en tenir. Mais voilà que ce démon envieux, ma mauvaise santé, est parvenu à me damer le pion. Depuis 3 ans, mon ouïe ne cesse de se dégrader. Je peux avouer que je mène une vie misérable. J'évite toute société car je ne peux décemment pas dire aux gens « Je suis sourd ». Si encore j'exerçais un autre métier, pas encore. Et dans mon cas, c'est une situation terrible. J'ai bien souvent maudit mon créateur et mon existence. Je veux braver mon destin de toutes mes forces. Je t'en prie, ne parle à personne de mon état. C'est un secret que je te confie.
En ce mois de juin 1801, Beethoven a 30 ans et il vit à Vienne depuis presque 10 ans. L'homme à qui il confie le douloureux secret de sa surdité est l'un de ses plus proches amis. Il s'appelle Franz Gerhard Wegeler et il est l'un des principaux destinataires d'une correspondance riche de plus de 2000 lettres. Les écrits de Beethoven permettent de dresser un portrait intime et inattendu du compositeur. Ils témoignent d'une vie de passion, où le grandiose côtoie le tragique, mais où toujours l'emporte la force créatrice de celui à qui l'on doit quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de la musique. Correspondance et carnet permettent de découvrir un homme d'une folle vitalité qui n'a jamais cessé de se battre. Beethoven naît à Bonn le 15 décembre 1770, dans une famille où l'on est musicien depuis 2 générations. Son grand-père était chef d'orchestre et son père, chanteur. C'est lui qui, dès ses 5 ans, l'initia à la musique.
En dehors de ce que gagnait le père, on n'avait pas de moyens d'existence. Aussi, la gêne régnait dans cet intérieur. De là, cette sévérité d'un père qui voulait trouver bientôt dans son fils aîné une aide pour l'éducation de ses enfants. C'était souvent avec des larmes que le petit Ludwig faisait les exercices musicaux auxquels son père l'astreignait durement.
Beethoven était, on pourrait presque dire, un enfant de la balle. C'est-à-dire, il était vraiment dans un milieu musical actif. Et il a été à l'école jusqu'à une dizaine d'années, l'école primaire. Hein. Mais il n'a pas beaucoup poursuivi ses études parce qu'ils étaient destinés à être musiciens dans la cour électorale.
Conscient du talent de son fils, Johann envoie bientôt Ludwig étudier avec d'autres professeurs que lui. Il a 12 ans lorsqu'il rencontre son premier véritable maître, Christian Gottlob Neffe.
Il y a un témoignage où Neffe dit « Il y a un jeune homme à Bonn auquel j'enseigne aussi bien pour jouer que pour la composition et il est très prometteur. C'est un nouveau Mozart et il faut donc le soutenir. C'est un appel au mécénat, en fait.
Beethoven lui rend grâce dans une de ses premières lettres.
Je vous remercie de m'avoir si souvent donné des conseils de manière à ce que je puisse progresser dans mon art divin. Si jamais je deviens un grand homme, une partie de mon succès vous reviendra.
L'année 1782 est également celle de la rencontre avec son plus fidèle ami, Franz Gerhard Wegeler, puis avec les Breuning, famille importante dans le développement artistique et intellectuel du jeune Beethoven.
Franz Wegeler, qui était de 5 ans plus âgé que lui, l'a introduit dans des familles de la bourgeoisie, aristocratie, pour donner des leçons aux enfants. Et ces enfants avaient à peu près l'âge de Beethoven.
Il régnait dans cette maison un ton de bonne éducation sans raideur. Il fut bientôt traité comme l'enfant de la famille. Il y passait non seulement la grande partie du jour, mais même souvent la nuit. Là, il se sentait libre.
C'est chez les Breuning que Ludwig trouve chaleur et réconfort lorsqu'il perd sa mère à l'âge de 17 ans.
C'était pour moi une mère si bonne et si aimable. C'était ma meilleure amie. Oh, qui peut se dire plus heureux que moi lorsque je pouvais encore prononcer le doux nom de mère et qu'elle pouvait l'entendre. À qui pourrais-je maintenant le dire? À ces images ressemblantes et muettes que mon imagination me suggère?
Dans la maison des Breuning, il croise également penseurs et intellectuels.
Bonn était une cour résolument éclairée. On pouvait lire et discuter d'écrits qui étaient interdits dans d'autres endroits, voire inaccessibles. Beethoven avait donc la possibilité d'accéder à beaucoup d'idées de la Révolution française et des Lumières.
Mais ensuite, surtout, il a rencontré une branche de la franc-maçonnerie qui était très portée sur le progrès des connaissances pour libérer l'humanité. Vraiment, dès le départ, Beethoven est nourri de cette idée qu'il faut défaire les tyrans pour accéder à la liberté.
En 1790, Beethoven a 20 ans. Lorsque meurt Joseph II, empereur d'Autriche, il écrit sa première grande œuvre, une cantate en son honneur. Il attire l'attention du grand compositeur Joseph Haydn, qui lui propose de venir étudier avec lui à Vienne. Le 2 novembre 1792, Beethoven quitte Bonn pour Vienne. À Vienne, la musique se fait partout entendre, mais dans un esprit de divertissement. Le contraste est fort entre l'atmosphère dans laquelle il a été formé à Bonn, un milieu intellectuel proche des idées révolutionnaires, et la légèreté qui règne dans la capitale.
Les Viennois paniquent à l'idée de ne plus avoir de sorbet car l'hiver a été si peu froid que la glace se fait rare. On a incarcéré diverses personnes d'importance. On prétend qu'une révolution était sur le point d'éclater. Mais je crois que tant qu'un Autrichien a sa bière brune et ses saucisses, il n'est pas prêt de se révolter.
Beethoven commence ses leçons avec celui qu'il surnomme Papa Haydn. Reconnaissant immédiatement le talent de Beethoven, Haydn aurait dit
« Vous aurez des pensées que personne n'a encore eues. Vous ne sacrifierez jamais, et vous ferez bien, une belle pensée à une règle tyrannique. » Mais vous sacrifierez les règles à votre fantaisie. Car vous me faites l'impression d'un homme qui a plusieurs têtes, plusieurs cœurs, plusieurs âmes.
Beethoven, de son côté, saura rendre hommage à son maître.
Lorsque je revis mes premiers manuscrits, je me demandais si je n'étais pas fou de mettre dans un seul morceau de quoi en composer 20. J'ai brûlé ces manuscrits, afin qu'on ne les voie jamais. Et j'aurais commis bien des extravagances sans les bons conseils de Papa Haydn.
Si vous voulez parler de l'influence de Haydn, c'est très clair dans le premier mouvement de la deuxième sonate. Mais le deuxième mouvement, c'est déjà comme si c'était 50 ans plus tard. Il y a une profondeur, une acceptation d'une lenteur extrême, sans laquelle on ne peut pas jouer ça. Dans l'écriture, et dans le pianisme, et dans la conception musicale, un pas de 50 ans en avant. qui n'aurait pas pu être écrit ni par Haydn ni par Mozart. Et un virtuosisme pianistique qui, après, devient typique beethovenienne.
En 1795, ses études terminées, Beethoven se forge d'abord une solide réputation de virtuose au clavier, se livrant à des duels pianistiques dont Vienne raffole à cette époque.
Il parvenait à produire une telle impression sur chacun de ses auditeurs que bien souvent les yeux se mouillaient de larmes et plusieurs éclataient en sanglots.
On voit par exemple dans la sonate opus 2 numéro 3, Do majeur, un virtuosisme incroyable. Il a certainement été un virtuose unique. Ça suffit à le comparer avec Brahms, qui écrivait bien pour le piano, avec une certaine lourdeur, mais il écrivait très bien, c'est jouable, tout ça. Mais on voit que ce n'est pas un pianiste. Beethoven, ça a dû être un grand, grand pianiste.
N'était mon ouïe, j'aurais déjà parcouru la moitié du monde. Pour moi, il n'est pas de plus grand plaisir que d'exercer mon art et de l'exposer.
Beaucoup d'autres documents montrent que Beethoven était un excellent pianiste. Mais malheureusement, en raison de ses problèmes d'audition, il ne pouvait plus monter sur les scènes du monde. Cela signifie qu'il pensait d'abord à une carrière de virtuose itinérant.
Sa carrière de compositeur commence également à prendre forme. Il a 25 ans lorsqu'il entame une grande tournée européenne. De Prague, il écrit à son frère Johann.
Cher frère, pour que tu saches du moins où je suis et ce que je fais, je dois enfin t'écrire. Tout d'abord, je vais bien, vraiment bien. Mon art me vaut des amis et de la considération, que souhaiter de plus ? Et cette fois, je gagnerai même assez d'argent. J'espère que ton séjour à Vienne te plaira de plus en plus. Prends garde seulement à toute la tribu de ces coquines de femmes.
Au retour de sa tournée, la santé de Beethoven se dégrade et son hygiène de vie n'arrange rien. Gerhard von Breuning raconte que le compositeur, après avoir écrit à sa table pendant des heures, jetait des brodeaux sur sa tête échauffée et sortait au grand air sans avoir pris la peine de se sécher. Mais Beethoven se bat. Il note sur son carnet à l'orée de l'année 1797.
Courage ! Malgré toutes les défaillances du corps, mon génie doit triompher. Voilà mes 25 ans. Il faut que cette année révèle l'homme achevé. Il ne doit plus rien rester à faire.
En 1800, il compose sa première symphonie. Il achève également en fin d'année les 6 premiers quatuors opus 18, les œuvres les plus importantes du jeune Beethoven en dehors des sonates pour piano.
De manière générale, les opus 18 sont quand même dans un langage classique entre Haydn et Mozart avec de la folie en plus pour moi et de l'inventivité.
Et donc il y a ce plaisir manifeste, les grandes colonnes.